Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Alors, nous sommes donc en été et Morel a lu un psaume ce matin et je vais m'arrêter sur deux psaumes ce matin qui parlent de dépression. Et on raconte, je ne sais pas si vous connaissez le compositeur qui a vécu au XVIIIe siècle, Haydn, il a écrit des très belles choses. Pour ceux qui aiment les quatuors, les classiques. Et on raconte qu'un jour, il était en conversation avec deux de ses amis. Et ils parlaient de leurs différentes manières de réagir face à la tristesse, à la déprime, au découragement. Et l'un de ses amis disait, « Moi, quand je me sens mal, découragé et triste, je prends un verre de cognac et cela me réconforte. » L'autre disait, « Moi, ce que je fais, c'est de prendre mon violon et de jouer. » Il n'y a rien comme la musique pour me remonter le moral et alléger ma peine. Haydn leur dit, pour ma part, quand je me sens triste, je prie le Seigneur. Nul n'est semblable à lui pour consoler et pour restaurer mon âme. Voilà donc trois démarches possibles face à la dépression, la déprime. S'enivrer pour oublier, ça peut être s'enivrer de plaisir, pas seulement d'alcool. Ou alors se plonger dans une intense activité, faire beaucoup, beaucoup de choses. Ou alors, comme Haydn, qui est la meilleure, prier. Alors, même lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est croyant, eh bien, on peut être tenté de sombrer dans la dépression. Parce que les difficultés, ça arrive à tout le monde, et le chrétien, bien sûr, n'est pas exempt de difficultés. Jésus nous a prévenus de cela. Non, la dépression, ça n'arrive pas qu'aux autres. Le célèbre prédicateur Spurgeon a eu des moments de dépression. Aujourd'hui, je vous invite à suivre le parcours d'un croyant. C'est celui qui a écrit les psaumes qu'on va voir. Un psalmiste. Et il écrit son combat bien réel contre la dépression. Dépression caractérisée par des hauts et des bas. Une tension caractérisée par une alternance entre un état émotionnel à la limite dépressif et un état de joie profonde. Avec passage alterné de l'un à l'autre. Peut-être ça vous rappelle quelque chose. Aujourd'hui on appelle ça les bipolaires. Alors on se dit, les bipolaires, est-ce qu'il n'y a que les... Attention, les bipolaires, si on est honnête, on peut se rendre compte qu'on traverse parfois ces moments-là, des hauts et des bas. Ce n'est pas une catégorie de la population. Est-ce que vous n'avez jamais connu cette tension? Alternance entre des hauts très hauts et des bas très bas. Et en fait, cette tension, elle est tout à fait normale à vivre pour un chrétien. Elle est tout à fait normale, donc ne soyez pas étonnés ni effrayés. Parce que le chrétien, eh bien, nous vivons, on peut dire, la tête dans le ciel et les pieds sur terre dans un monde déchu, où ça va mal. Alors, les psaumes 42 et 43 que nous allons voir, en fait, ils ne forment qu'un seul psaume de par leur structure. Ils sont liés entre eux. Ils font partie d'un groupe de 8 cantiques, ce sont des psaumes chantés, qui font partie d'un un groupe de 8 cantiques. Des fils de Corée, les fils de Corée, nous dit cette chose. Les fils de Corée, Corée ça, peut-être ça vous rappelle quelque chose. C'était cette famille donc, de Corée, c'était une famille de Lévites qui descendait de ce Corée. Et Corée, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est élevé contre Moïse dans le désert, voir Nombre chapitre 16. Vous pouvez voir son histoire. Et cette famille fut l'objet d'un terrible jugement de Dieu. Et là, nous avons des psaumes écrits par les fils de Corée, leurs descendants donc. Et là, ils semblent avoir eu à cœur de faire oublier la faute de leur ancêtre par un redoublement de zèle au service de l'Éternel. En effet, ils s'occupaient de la louange. Ils dirigeaient les chœurs, les chants. Alors ces deux psaumes que nous allons lire font clairement ressentir les soupirs des personnes qui aiment Dieu, qui l'ont rencontré et qui ne peuvent pas s'habituer à vivre loin de lui par la force des choses. Et dans ce psaume que nous allons lire, il y a beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. Peut-être vous avez vos pourquoi. Dieu m'a-t-il oublié? S'est-il éloigné? Et pourquoi, moi qui l'aime tant? Ils soupirent, ils appellent Dieu, ils luttent. C'est un psaume de lutte. Ce sont des psaumes de lutte. Ils luttent jusqu'à ce que, eh bien, par la foi, une foi qui triomphe des circonstances extérieures ou intérieures, ils finissent par retrouver la présence de Dieu, du Dieu vivant, dans le désert même où ils se trouvent dans le désert. loin de Jérusalem. Les croyants qui passent par des moments difficiles, et c'est tout à fait normal de passer par des moments difficiles, c'est le cas de nous tous, hein, à des moments différents de notre vie. Eh bien, ils se reconnaîtront dans ces deux psaumes. Ces deux psaumes étaient particulièrement chers aux Huguenots, les protestants qui étaient persécutés et qui les chantaient souvent. Et ça leur faisait du bien. Et à nous aussi, ces psaumes sont là pour nous faire du bien. C'est pour ça qu'ils ont été écrits. Donc je vous invite à les prendre. Je vais les psaumes 42 et 43 et je vais les lire. Psaume 42, 43. Je vois que vous avez déjà trouvé la page. Au chef de chœur, poème des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit tout le temps « Où est ton Dieu ?» Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de reconnaissances d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. La nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent en me disant tout le temps « Où est ton Dieu ?» Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de ruse et de fraude. C'est toi, mon Dieu protecteur. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai intitulé mon message « Victoire sur la dépression » parce que c'est un psaume qui nous conduit vers la victoire sur la dépression. Et ce que je vais voir en quatre points, premièrement nous verrons comme le psalmiste chercher Dieu dans la sécheresse. Deuxièmement nous verrons chercher Dieu dans les torrents d'épreuves. Troisièmement nous verrons que Jésus a connu la sécheresse de la soif et les torrents de la colère de Dieu pour nous. Et quatrièmement, nous verrons que la victoire elle est possible, la victoire de la foi, la victoire triomphante de la foi. L'auteur, donc le psalmiste, fils de Corée, il ne connaît pas de plus grande joie que de servir Dieu dans le sanctuaire. Et là, il a été violemment éloigné des lieux saints et de la présence de Dieu. Et certainement, il faisait partie des captifs qui avaient été emmenés par l'envahisseur au moment de l'exil. L'exil, voilà ce qui cause sa souffrance, sa dépression même. Il est loin de la Terre Sainte. Il aspire au présent à retrouver cette présence de Dieu, là où il est, dans le désert. Comment? En se rappelant les souvenirs du passé, il va se rappeler, et en portant ses désirs vers et ses pensées vers l'avenir. C'est ce qu'on va voir plus en détail. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez déprimé? Qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'on a tous un double problème, tous. Si vous n'avez pas ce problème, je vais bien parler avec vous. En fait, nous avons tous un double problème qui peut nous tirer vers le fond. Double problème, c'est qu'on oublie facilement et on ne sait pas attendre. On oublie et on ne sait pas attendre. On oublie facilement les moments joyeux passé dans la présence de Dieu et avec son peuple. Et on ne sait pas attendre dans le présent de retrouver l'intimité de la présence de Dieu en regardant vers l'avenir. On ne sait pas attendre. Alors, que fait le psalmiste pour remonter à la surface? Il est au fond, hein. Qu'est-ce qu'il fait pour remonter à la surface et pour lutter contre sa dépression? Et on peut vraiment s'inspirer de son attitude, parce qu'il y a un cycle là. Il prie, ensuite il réfléchit, ensuite il se souvient, ensuite il reprie, il parle à Dieu, et que fait-il? Il se parle à lui-même, il s'exhorte lui-même. Et il recommence ce cycle dans ce psaume. Il prie, il réfléchit, il se souvient, il reprie, il parle à Dieu, et il se parle à lui-même. C'est ce qu'on va voir plus en profondeur. Il recommence ce cycle, mais ce n'est pas un cycle infini, indéfini. Il recommence ce cycle jusqu'à arriver à la pleine certitude, par la foi, que Dieu est là et qu'il peut s'attendre à lui. Ce n'est pas de par son imagination, il peut s'attendre à lui. Il passe cycliquement du pessimisme à une foi grandissante, une foi qui va grandir et une foi volontaire, intentionnelle, comme un balancier, mais qui se rapproche de plus en plus de lui, de Dieu. L'âme se décourage, la foi la relève. L'âme se décourage, la foi la relève. Mon premier point donc, cherchez Dieu dans les moments de sécheresse, si vous en avez connu, si vous en connaissez. Les versets 1 à 4, le psalmiste, il commence comment? Par une plainte. N'ayons pas peur de nous plaindre quand ça ne va pas. Le psalmiste le fait, mais il ne faut pas en rester bien sûr à la plainte, c'est pour progresser. Le psalmiste commence par une plainte adressée à Dieu. Il connaît l'amertume de la séparation avec le Seigneur, il connaît la sécheresse de l'âme. Il attend d'être en sa présence. Il soupire, il a soif de la présence, de quoi il a soif? De la présence de Dieu. Il attend sa présence comme il attend un verre d'eau fraîche dans le désert. Quand irai-je? Verset 3. Comme l'eau, elle est vitale, et bien la présence de Dieu dans nos vies, frères et sœurs, elle est vitale. Il a soif de Dieu lui-même, du Dieu vivant. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa parole, c'est vital. Est-ce que vous buvez chaque jour? Oui. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? C'est vous qui le savez, chaque jour. Je me souviens, dans notre ancienne église, nous avions fréquenté l'église de Baptiste de Toulouse Métropole. Il y avait eu des Iraniens qui fréquentaient notre église, et notamment il y avait un Iranien qui avait fui la persécution dans son pays parce qu'il était chrétien. Et il avait donné son témoignage un jour en chaire, et il a donné son témoignage lorsqu'il avait connu la prison. Il avait été emprisonné, il était même battu à cause de sa foi en Iran. Et il disait que ce qui lui manquait le plus dans ces moments, c'était la lecture de la parole de Dieu. Et lorsqu'il le disait, il était ému en le disant. Il savait de quoi il parlait. La Bible lui avait été confisquée. Et ça lui manquait. Ça lui manquait comme quelqu'un qui a eu très soif. Et dans son témoignage, il nous exhortait. Nous l'avons, nous, la parole. Il nous exhortait à la lire quotidiennement. Il nous exhortait même à la mémoriser tant que nous en disposons. On ne sait pas demain. Alors le psalmiste, eh bien, il disposait quand même d'une eau dans sa sécheresse. La seule eau dont il disposait, c'était l'eau de ses larmes. C'était l'eau de ses larmes. L'eau de ses larmes qui l'inondait, c'était le flot continu de ses larmes. Il pleure jour et nuit, verset 4. C'était même sa nourriture. Il fond en pleurs, littéralement. Il répand son âme sur lui-même. On appelle ça se lamenter sur soi. Et soyons honnêtes, il y a des moments où on peut passer par là. Toute vie est inconcevable en dehors du Dieu vivant. En dehors du Dieu vivant, en dehors du Dieu de la vie, la source qui est la source de toute vie. Toute vie est inconcevable sans lui. Se couper de lui, par découragement, c'est se faner. Même si on garde l'apparence de la piété, se couper de lui, c'est se faner comme une fleur. Et puis, déjà il souffre, mais ce qui va augmenter encore plus sa douleur, au point qu'il ne peut prendre aucune nourriture. C'est comme ça, hein. Quand on passe par ces moments-là, on n'a pas faim. Ce qui va augmenter sa douleur, c'est que ses ennemis incroyants se moquent de sa foi en Dieu, et se moquent de Dieu lui-même. Où est ton Dieu? Expression répétée deux fois, verset 4 et verset 11. Et puis là, il y a une progression. Il a été honnête avec Dieu, il est immergé dans un torrent de tristesse, mais il va prendre une décision. Il va prendre une décision contre lui-même, contre ses émotions, contre ses sentiments. Il prend la décision de continuer d'espérer. Comment est-ce qu'il va commencer à remonter la pente? En se souvenant des beaux jours, des jours meilleurs. Au verset 5, le psalmiste se rappelle les fêtes auxquelles il prenait part quand il était à Jérusalem, certainement. Oui, à Jérusalem, il était lévite. Le psalmiste se rappelle les fêtes auxquelles il prenait part, non seulement comme lévite, mais il dirigeait aussi la louange, il dirigeait les chœurs sacrés. Qu'est-ce que c'est qui l'a poussé à se souvenir des bons moments? Eh bien, paradoxalement, c'est sa tristesse. N'ayons pas peur de ces moments de tristesse, parce qu'ils nous poussent à nous rappeler le bon vieux temps. Mais attention, ce n'est pas fait pour vivre dans le passé, ce n'est pas pour cette raison-là. Ne soyons pas découragés quand nous nous voyons parfois pessimistes. Ne soyons pas découragés si notre pessimisme nous conduit à nous rappeler des bons souvenirs qui vont rendre la situation présente plus supportable. La nostalgie, c'est se rappeler du bon vieux temps, ça a du bon. Pas pour vivre dans le passé, mais comme un tremplin vers l'avenir, pour rebondir. Et là, il y a vraiment un processus dans l'attitude du psalmiste. Ce que j'ai dit tout à l'heure, sa tristesse le conduit à quoi faire? À prier. Il prie, il réfléchit, puis il se souvient des bons moments. Il se souvient des bons moments, et puis là, il se dit, mais oui, au fait, Dieu était là à ce moment-là, mais Dieu reste le même. Il est toujours là. Et qu'il prie, ça va le conduire à quoi faire? Après avoir prié, à se parler à lui-même. Le psalmiste va se parler à lui-même. Pour réagir lui-même contre son abattement, relève-toi, réagis, ressaisis-toi. Il se parle à lui-même. Pour raviver sa foi. Est-ce qu'on vous a déjà surpris à vous parler tout seul ou toute seule? Ou est-ce que vous avez déjà vous-même surpris quelqu'un à le faire? Bon, prier Dieu, parler à Dieu, d'accord, ou à quelqu'un, mais parler tout seul, se parler à soi-même, ça va bien, là, vous êtes sûr? Oui, tout va bien, pas d'inquiétude, tout va très bien même. C'est une chose tout à fait normale et même bonne de se parler à soi-même, parce qu'on s'exhorte soi-même. Des hommes et des femmes de Dieu l'ont fait, comme le psalmiste. Le verset 6 du psaume 42, il est répété au verset 5 du verset 43. Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psalmiste se parle à lui-même. Il s'exhorte lui-même. Il s'encourage lui-même. Et il se parle. Pas seulement dans sa tête. Pourquoi t'as battu mon âme? Et là, eh bien, petit à petit, il remonte à pente. Son espérance est en train de renaître. Une espérance qui n'est pas fondée sur ses émotions, ni sur ses sentiments, mais sur les promesses de Dieu, qui tient toujours ses promesses. Et c'est précisément dans ces moments-là où on se sent en bas, que le Seigneur vivant veut nous relever, et qu'il veut nous montrer son salut. Le psalmiste, verset 6, il s'est parlé à lui-même, et au verset 7 et 8, il va s'adresser de nouveau à Dieu, il reprit. Et là, il reprit comment? Par une nouvelle plainte. Il s'est demandé à lui-même « Pourquoi t'as battu mon âme ?» au verset 6. Et là, eh bien, il parle à Dieu. Il apporte honnêtement son abattement à Dieu. « Mon âme, mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. » Il s'est parlé à lui-même, il parle à Dieu, verset 7. « Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. » Alors, à nouveau, sa tristesse va l'amener à se souvenir. Mais cette fois, il ne va pas se rappeler des bons souvenirs. Il va se rappeler des souvenirs douloureux dus à l'éloignement de Jérusalem et au souvenir de quoi? De la colère de Dieu qu'il a vécu. Et là, on voit un changement radical. Un changement radical dans le psaume. Jusqu'à présent, il était question de soif, de sécheresse. Et là, il y a une autre image opposée. Le psalmiste va passer maintenant à l'image de la noyade. De la noyade. Noyade dans les torrents d'épreuves. Mon deuxième point, chercher Dieu dans les torrents d'épreuves, après avoir cherché Dieu dans la sécheresse. Le psalmiste, il n'est pas dans la demi-mesure, il est dans l'extrême. Il est loin de Jérusalem, il est au nord d'Israël, là où se trouve la montagne de l'Hermon. Cette montagne, elle est réputée pour être recouverte de glace, et donc c'est de là d'où coulent des torrents qui partent pour arroser le sud. Et le psalmiste, il a à ses pieds le Jourdain. Tous ces torrents qu'il voit, lui rappellent cette fois les vagues de la colère de Dieu qui sont passées sur lui, des coups terribles et répétés qui l'ont frappé lui. Et c'était Dieu lui-même, dans son jugement souverain, qui était la cause de l'océan d'épreuves, dans lequel il perdait pied. Mais, loin de l'écraser, se rappeler de ses mauvais souvenirs ne vont pas l'écraser, bien au contraire. Dieu est tout puissant dans son jugement, aussi. Eh bien, ce souvenir de son jugement va raviver sa foi. Le verset 9 répond au verset 4. Vous vous rappelez verset 4 ? C'est écrit, il disait que ses larmes sont sa nourriture jour et nuit. Maintenant, au verset 9, il a des jours et des nuits différents. Au verset 9, il dit que le jour, il est l'objet de la bienveillance de Dieu. Et la nuit, il chante le cantique de Dieu. Donc il progresse dans son état. Petit à petit, il est en train de se relever. Sa foi, elle est encore bien là. Il reconnaît que même dans l'épreuve, la bonté de Dieu, sa grâce, le soutient continuellement. Jour et nuit. Et il l'appelle encore Dieu de ma vie. C'est la même expression que Dieu vivant qui fait écho au verset 2. Le psalmiste n'a pas perdu la foi. Mais le combat contre la dépression n'est pas terminé. À nouveau, juste après sa prière, une nouvelle plainte, versets 10 et 11. Un pourquoi à Dieu. Pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi marcher dans la tristesse ? Après avoir marché dans les acclamations à Jérusalem, pourquoi marcher dans la tristesse ? Je sens oublié par Dieu. Se sentir, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu ce sentiment de vous sentir oublié par Dieu à cause de vos épreuves ? Dieu qui est notre suprême secours, notre salut, eh bien se sentir oublié par Dieu entraîne un sentiment de solitude extrême, une grande souffrance. Mais c'est en même temps dans nos souffrances que nous nous rapprochons de Dieu. La plupart des gens se sont rapprochés de Dieu parce qu'ils ont souffert, dans un brisement. Ces souffrances ne font que nous rapprocher de Dieu. Et à lui demander pourquoi. Demander à Dieu pourquoi, c'est se rapprocher de lui. C'est pas le bouder, c'est se rapprocher de lui, c'est aller vers lui. Pourquoi ? Pourquoi ce contraste entre la bonté de son Dieu, qu'il appelle son rocher, et les malheurs qui ont fondu sur lui ? Ce n'est pas un pourquoi du doute, c'est le pourquoi plutôt de la foi. Parce que le psalmiste, qu'est-ce qu'il fait ? Il prie. Il est en relation avec Dieu, il n'a pas laissé tomber Dieu, il a un dialogue avec Dieu. Il prie avec lui, il a gardé la relation. C'est le pourquoi de la confiance. Le doute, une attitude de doute aurait été de lâcher Dieu. On raconte l'histoire de... J'ai entendu une fois cette histoire de la pouille d'un pasteur qui avait reçu quelqu'un qui voulait lâcher... Il voulait lâcher la foi. Il voulait lâcher l'Église et il voulait lâcher Dieu. Et il en a parlé à son pasteur. Et ce pasteur lui a répondu, « Bon, comme vous voulez. Mais... avez-vous pensé à dire au revoir à Dieu et à l'Église avant ? » Et là, eh bien, en guise de réponse, silence. Alors que reprendre la relation à Dieu, lui dire le pourquoi, est bien meilleur. L'expérience prouve que toutes ces difficultés que traversent les croyants, eh bien, on n'a pas forcément des pourquoi. On n'a pas forcément la réponse à nos pourquoi. Et il faut l'accepter, frères et sœurs. On n'a pas forcément les réponses au pourquoi de nos épreuves. Elles ne sont pas forcément explicables, du moins immédiatement. Il se peut que ce soit après l'épreuve qu'on comprenne. Oui, je suis passé par là, le Seigneur l'a permis. Maintenant, je comprends pourquoi, vu là où je suis aujourd'hui. En témoigne le livre de Job. Job ne savait pas l'enjeu spirituel au ciel qui causait ses souffrances. Abraham ne savait pas pourquoi Dieu lui demandait de sacrifier son fils Isaac. Il n'avait pas la Bible comme nous aujourd'hui. Nous, nous avons eu la réponse bien des siècles après. Et nous avons su que Dieu a stoppé le bras d'Isaac, qui préfigurait Jésus, mais il n'a pas stoppé son bras pour sacrifier son propre fils, Jésus. Jésus lui-même qui a posé un pourquoi à Dieu quand il était sur la croix. Pourquoi ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, verset 46. Mon troisième point, Jésus a connu la sécheresse de la soif et les torrents de la colère de Dieu pour nous. Pour nous. Jésus, donc, il a subi la colère de Dieu. Pas pour lui, il n'avait rien fait de mal, il est le Fils de Dieu. Il a accepté que les flots de la colère de Dieu que méritaient nos péchés et les péchés du psalmiste passent sur lui. Pour que nous n'ayons plus à les subir, si nous sommes en Christ, bien sûr. Torrents d'épreuves pour Christ qui sont devenus pour nous des torrents de grâce. Des torrents de grâce pour sécher nos larmes. Jésus a souffert. Les souffrances physiques de Jésus sur la croix ont été atroces. Mais plus grande a été la souffrance d'être abandonné de son Père momentanément, lorsqu'il a perdu la communion avec Dieu son Père à cause de nos péchés, à cause des péchés de l'humanité qu'il portait à ce moment sur la croix. Jésus a accepté momentanément d'être abandonné de Dieu, mais pas oublié de son Père, pour que nous ne soyons jamais abandonnés ni oubliés par Dieu, pour être toujours en sa présence, même dans les difficultés, même dans nos souffrances. Vous savez, quelqu'un qui devient chrétien, je ne veux pas lui dire « deviens chrétien, tu n'auras plus de problèmes ». Toi, tu auras peut-être plus de problèmes qu'avant. Sauf que Dieu sera avec toi, il l'a promis. Au verset 11, le psalmiste dit qu'il a les os brisés en entendant les sarcasmes, les moqueries de ses ennemis, qui lui posent sans arrêt cette même question « où est ton Dieu ?» Jésus, sur la croix, il a entendu ces mêmes sarcasmes, ces mêmes moqueries, de la part des incroyants qui disaient « que Dieu le délivre maintenant !» Mais aucun de ses os n'a été brisé par les soldats, ni avant ni après sa mort. Effectivement, la loi demandait à ce qu'aucun des os des agneaux sacrifiés ne soit brisé. Jésus est l'agneau de Dieu, brisé pour nous, qui est mort pour nos péchés. Dieu a veillé à ce qu'aucun de ses os ne soit brisé pour son propre fils, l'agneau de Dieu. Jésus est mort sur la croix, trois jours après il est ressuscité. Croyons que il est celui qui peut nous garder et nous restaurer totalement. Jésus est mort pour nos péchés et il ne pouvait pas mourir dans son lit. Il ne pouvait pas mourir sans... Non, il fallait qu'il souffre. Et il y avait une raison à cela. Jésus connaît la souffrance. Il nous comprend. Il fallait qu'il souffre, pas seulement pour porter nos péchés, mais aussi pour porter nos souffrances. Ésaïe 53, verset 4, qui parle de Jésus. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Christ a connu l'angoisse et la souffrance sur la croix. Ce n'était pas pour rien qu'il a souffert, mais il a souffert pour nous. Lorsque tu souffres, apporte ta souffrance à Jésus. Il te comprend. Il a lui-même souffert. Il est ressuscité et il souffre avec toi pour t'aider à la traverser, la souffrance. Dans nos difficultés, pas après nos difficultés, dans nos difficultés, eh bien, apportons à Jésus nos souffrances pour qu'on puisse les supporter jusqu'à la délivrance promise. Parce que c'est dans la détresse et la souffrance et dans la délivrance que nous éprouvons constamment l'amour et la présence de Dieu. Et c'est ainsi que nous le connaîtrons mieux. Si nous sommes repentis de nos péchés, si nous avons cru en Jésus pour le pardon de nos péchés, eh bien nous sommes au bénéfice de son salut, de sa miséricorde et de sa puissance. Et surtout, n'ayons jamais cette pensée que Dieu puisse nous oublier. Lui, le Dieu de notre vie, le rocher de notre salut, notre refuge. Mais osons lui apporter nos pourquoi. Pourquoi, Seigneur ? On continue le verset 12. Eh bien, la suite, le verset 12, c'est une répétition du refrain du verset 6. « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Le psalmiste parle à nouveau à lui-même. Encore un pourquoi. Cette fois, après avoir dit pourquoi à Dieu, il se parle à lui. « Pourquoi ? Pourquoi t'as battu mon âme ?» À nouveau. Les pourquoi vers Dieu se transforment en pourquoi à lui-même. Au lieu de remettre Dieu en question, eh bien lui-même se remet en question. Et il y a encore une progression dans son état. Il va mieux. Et il y a une petite différence entre le verset 12 et le verset 6. Au verset 6, le psalmiste a dit « car je le célébrerai encore pour son salut ». Au verset 12, il dit « car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu ». Et on retrouve la même phrase à la fin du psaume 43, répétée pour la deuxième fois pour le verset 6. Dieu lui-même est notre salut. Jésus est notre salut. Alors vous voyez le processus chez le psalmiste dont on peut s'inspirer. Le psalmiste ne lâche rien. Il apporte à Dieu sans relâche ce qui le tracasse, jusqu'à trouver la paix, jusqu'à trouver Dieu lui-même. Il mène un véritable combat contre le découragement en parlant à Dieu par la prière, en se rappelant ce qu'a fait Dieu dans sa vie, les bons et les mauvais souvenirs, et en se parlant à lui-même, en s'exhortant lui-même. Et il recommence ce cycle jusqu'à trouver Dieu lui-même. Dieu qui est son salut, notre salut. Et puis voilà qu'on arrive au psaume 43, qui est la suite, qui ne forme qu'un avec le psaume 42. C'est évidemment une troisième strophe du même cantique. C'était chanté, hein, ce psaume. Une troisième strophe du même cantique qui répète la même prière plaintive au sujet de ses adversaires et le même refrain final de son dialogue intérieur. Psaume 43, verset 1, il s'adresse de nouveau à Dieu, à la fois comme son juge et comme son avocat. « Rends-moi justice, défends ma cause », verset 1. Ça, c'est la foi. Il n'a pas perdu la foi, le psalmiste. Il va de mieux en mieux. Il demande que Dieu lui fasse justice. Mon quatrième point, voyons maintenant la victoire de la foi. Il va mieux, le psalmiste. Déjà, l'accent de sa prière, il est déjà plus assuré. L'exaucement de sa prière se fait pressentir. Il est assuré qu'il reviendra sur la sainte montagne de Dieu, du Dieu qui tient ses promesses. Il demande à Dieu de lui envoyer sa lumière et sa vérité. Pourquoi ? Pour le guider. Pour le guider jusqu'où ? Regardez la progression, fin du verset 3, il y a une progression. Le guider d'abord vers la montagne sainte de Dieu, puis jusqu'à sa demeure, puis vers l'autel de Dieu, puis vers Dieu lui-même. Pour arriver à Dieu lui-même, de sa maison à Dieu lui-même. Dans quel but ? Pour le célébrer, pour le louer. Parce que Dieu est sa joie, son allégresse, c'est son aspiration la plus profonde de louer Dieu, comme il a été dit ce matin. Comme de louer Dieu. Est-ce que ce sont nos aspirations ? Est-ce que ce sont les vôtres ? Que Dieu soit votre joie. Lui, pas ce qu'il a fait, mais lui, sa personne, qui soit notre joie, notre allégresse. L'alternance des pourquoi à Dieu dans sa prière et des reproches à sa propre âme d'être découragé, eh bien, il y a une progression, ça devient une déclaration triomphante de la certitude de la foi du psalmiste. L'épreuve de l'abandon n'a pas anéanti sa foi, bien au contraire. Pourquoi ? Parce que la vraie foi, elle est indestructible. Elle est indestructible parce qu'elle est un don de Dieu. Elle finira toujours par renaître de ses cendres. Vous savez, ça me fait penser à ces bougies d'anniversaire qu'on donne parfois aux enfants, enfin qu'on donne aux enfants sur le gâteau d'anniversaire. On leur fait souffler les bougies et puis les bougies se rallument aussitôt. On ne peut pas les éteindre. La vraie foi, elle est indestructible. Elle est un don de Dieu. La vie ne peut pas mourir. Jésus est ressuscité. Dieu lui-même est le soutien de notre foi par son Saint-Esprit. Alors cette prière du psalmiste, elle peut aussi devenir la tienne, la mienne. Elle est là, ces textes sont là, sont là pour ça. Elle peut devenir la nôtre, triste au départ, et pleine d'une foi et d'une espérance retrouvée à la fin. Soyons vrais avec le Seigneur, de toute façon on ne peut rien lui cacher. Voilà une exhortation à persévérer dans la prière tout en osant être vrai devant Dieu, en lui amenant nos pourquoi. Espère en Dieu, il te délivrera de tes ennemis et de ta dépression. Pourquoi ? Pour que tu puisses le louer. C'est ce qu'il veut. Alors, si vous passez par des moments difficiles, demandez-vous quel est votre meilleur souvenir de votre vie avec le Seigneur. Aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie d'église. Alors que vous soyez jeune chrétien, chrétienne ou chrétien de longue date. Rappelez-vous, église de Figeac, les meilleurs moments vécus en église durant toutes ces années. Vous étiez là bien avant nous. Vous êtes pessimiste pour l'avenir, et bien rebondissez sur ce pessimisme en vous plongeant dans vos meilleurs souvenirs avec Dieu, pour ensuite refaire surface avec une foi vivifiée, une foi intentionnelle, une décision volontaire de faire confiance à Dieu, malgré les circonstances. Ce que Dieu a été hier, il est encore aujourd'hui, il le sera demain. Ce que nous dit Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La lumière, le bout du tunnel, on y aspire, elle se trouve souvent à la fin. Pas toujours pendant, mais c'est possible pendant, même si on ne comprend pas toujours le plan de Dieu. Mais la prière du psalmiste, le psalmiste, il a demandé la lumière et la vérité à Dieu. Elle a déjà été exaucée. Dieu lui a envoyé, ainsi qu'à nous, sa lumière et sa vérité. Nous l'avons. Pour nous, pourquoi ? Pour nous. Ce qu'a demandé le psalmiste, pour nous guider jusqu'à Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Jésus est la vérité, il est la lumière du monde. En Jean 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous avons cette lumière en Christ. Jésus est la vérité. Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous disposons de cette lumière et de cette vérité en Jésus. Et ce psaume se termine magnifiquement par ce refrain du psalmiste qui répète pour la troisième fois avec cette petite nuance à la fin. Ce psalmiste, comment se termine ce psaume ? En se parlant à lui-même. Il s'exhorte lui-même. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi ? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » L'expression est répétée trois fois. Dieu n'est pas seulement celui qui sauve, il est lui-même notre salut. De même que Dieu n'est pas seulement le Dieu vivant, il est lui-même la vie. De même qu'il n'est pas seulement celui qui nous éclaire et qui nous guide, il est notre lumière. De même que Dieu n'est pas seulement celui qui nous donne la joie, la paix et l'allégresse, il est lui-même notre joie, notre paix, notre allégresse. De même que Dieu n'est pas seulement celui qui étanche notre soif, mais il est notre eau. Jésus, vous vous rappelez, sur la croix, il a dit « j'ai soif ». Il a connu la soif. Il a connu la soif pour que nous n'ayons plus jamais soif de Dieu. Vous avez peut-être soif qu'on prie pour vous, ou pour vos proches. Vous avez hâte que vos proches se convertissent, peut-être. Amen, c'est très important. C'est parfois aussi, et c'est tout à fait normal, que vous demandiez la prière. Prie pour moi, s'il te plaît. Oui, nous avons besoin de prier les uns pour les autres dans l'Église, et aussi prier pour nos proches. Mais plus que de prier pour vous, vous avez peut-être soif qu'on prie pour vous. Plus que de la prière des autres, vous avez soif de Dieu lui-même. Je peux vous parler très longuement des vertus d'un verre d'eau fraîche. Là, ce n'est pas la canicule, hein, on l'a eu. Je peux vous en parler très longuement. Puis l'eau, c'est la molécule H2O. Et quand tu la bois, ça te rafraîchit. Elle est encore meilleure quand elle est fraîche. Je peux vous en parler très longuement. Une eau pure qui déborde. Mais si vous ne la buvez pas, vous risquez de mourir de soif. Prier, c'est déjà prendre ce verre d'eau que Dieu met à notre disposition. Alors qu'on puisse, pour terminer, dire comme l'apôtre Paul, « Pour moi, vivre, c'est Christ. » Philippiens 1, 21. Je vais prier. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu lointain, Seigneur, tu es venu jusqu'à nous, tu t'es fait homme, tu as connu, Seigneur, tu as connu la vie des hommes, tu as connu, tu n'as pas connu le péché parce que tu as vaincu le péché, et tu as connu, Seigneur, tu as connu la souffrance, Seigneur. Il le fallait pour que nous puissions la supporter lorsqu'elle est là, et que tu nous aides à la traverser. Merci, Seigneur, parce que tu nous montres tel que nous sommes, Seigneur, par ta parole. Tu nous prends tel que nous sommes et tu nous acceptes tel que nous sommes grâce à Jésus qui a porté nos péchés et nos souffrances à la croix. Et nous pouvons venir te les apporter, Seigneur. Nous pouvons t'apporter nos pourquoi, Seigneur, de ce que nous ne comprenons pas. Fais que nous fassions l'expérience, chacun d'entre nous, Seigneur, que te prier, Seigneur, c'est déjà la victoire, Seigneur. Que t'apporter nos états, notre joie, nos tristesses, Seigneur, c'est que nous fassions l'expérience que, Seigneur, en ta présence, elle nous suffit. Elle nous suffit, Seigneur, ta présence nous suffit, quelles que soient les circonstances. Merci, je te prie de nous accompagner durant toute cette semaine et que nous voyons, que nous soyons certains de ta présence. Et je te remets aussi tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont persécuté de par le monde. Il y a l'Église qui est persécutée. Je pense à ceux qui ont connu le deuil au Nigeria, Seigneur. Fais que leur foi ne défaille pas, Seigneur. Et fais que, Seigneur, ils persévèrent et que leur foi soit un témoignage vivant de qui tu es, de ce que tu es là, Seigneur. Tu as enlevé la séparation qu'avait causé notre péché. Et nous pouvons te parler à tout moment. Merci, mon Dieu, que tu sois toujours l'objet de nos louanges. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être on peut prendre le chant « Mon âme comme une biche » soupire après des courants d'eau, puisqu'il est pour terminer.